Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et dans le cadre du Festival Est-Ouest qui reçoit cette année le Liban, j'ai dans le studio avec moi Anna Jaber, spécialiste des migrations au Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes là avec nous dans le cadre du Festival Est-Ouest. Ça a commencé il y a quelques jours. Vous n'arrêtez pas. J'ai rencontré quelques-uns des participants. Vous faites beaucoup de choses et vous avez notamment animé une table ronde avec Bruno Tircuir au sujet de son exposition.
Oui, et c'était une rencontre très intéressante parce que j'ai pu découvrir que quelque part en France, dans la Drôme, dans le Diwa, il y a des gens qui s'intéressent à d'autres personnes ailleurs dans le monde, notamment aux réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés qui se trouvent au Liban. Il a fait des photos extraordinaires et qui rendent compte comme ça de vie quotidienne, de fêtes de petites choses, mais en même temps de plus grandes choses, avec notamment le sentiment d'injustice et comment il gère ce sentiment d'injustice, comment il résiste à ce sentiment d'injustice. Et en même temps, autour de cette exposition, il y avait des collégiens, des lycéens surtout. Il y avait deux générations, une génération de lycéens et d'autres générations d'adultes en fait. Et c'était vraiment, pour moi, j'étais très émue de voir l'intérêt qu'il portait à ce pays et aux gens qui l'habitent. Je trouvais ça fantastique.
Voilà. Vous êtes étonnée de cet intérêt comme ça,
oui.
Par rapport au fait que ce soit un peu loin et du coup inconnu et que
oui.
La curiosité dépasse les frontières comme ça.
Oui, je suis étonnée et en même temps soulagée parce que c'est une question de curiosité. La curiosité de l'autre est une réalité à laquelle on ne va pas échapper. Enfin, c'est la réalité des temps à venir parce que les sociétés se mélangent, que les cultures s'entremêlent et que les questions extérieures qu'on attribuait aux politiques étrangères et aux ministres des Affaires étrangères deviennent très rapidement et de plus en plus des questions d'ordre intérieur. Donc il est très important d'aller à la rencontre et de découvrir, en fait, en tout cas d'en savoir un peu plus sur ces sociétés dont le nom nous inquiète, nous intrigue dont le nom renvoie à des réalités parfois très violentes.
Alors justement, pour rebondir là-dessus, vous publiez régulièrement dans le monde diplomatique et il y a à peu près un an, vous avez publié un article titré « Qui accueille vraiment les Syriens ?». Je me demande, quand on s'est vraiment penché sur la question de ces migrations, comme vous êtes penché dessus, est-ce que c'est pas un peu agaçant d'entendre des gens qui s'indignent de devoir accueillir quelques centaines de personnes dans un village ?
Je ne sais pas si c'est agaçant ou pas. Ce qui est certain, c'est que ça révèle un manque de connaissances. Ça révèle une méconnaissance de ces gens. Ça révèle une méconnaissance de leurs problèmes. Et ça révèle plus largement une méconnaissance des dynamiques qui se mettent en place sur notre planète. Il faut savoir que le conflit syrien a donné lieu à au moins 6 millions de réfugiés, ce qui est en fait l'équivalent d'une population, la population d'un pays entier. Bon, c'est 6 millions de réfugiés syriens à l'extérieur des frontières syriennes. Il y a aussi 7 millions de déplacés, ce qui fait globalement plus de la moitié de la population syrienne qui ne vit pas chez elle. Ces 6 millions de réfugiés ont été accueillis dans les pays frontaliers, à savoir le Liban, la Turquie et la Jordanie. Le Liban est le pays qui a le plus, selon les classements du HCR, le ratio de réfugiés le plus important par rapport à au nombre d'habitants. En gros, pour 2 habitants libanais, il y a au moins, je dis bien au moins, un réfugié syrien. Donc on en est à 1/3 de la population libanaise qui habite aujourd'hui le Liban, 1/3 de la population est syrienne. Donc du coup, ça pose des questions d'hospitalité, de bienveillance, de rapport au conflit de l'autre, du droit à la vie. Ce droit qui est un droit inaliénable de tout un chacun de nous sur la planète. En l'occurrence, je peux comprendre qu'en France, lorsqu'on est dans un petit village qu'on a sans histoire et qu'on n'est pas, on n'est pas dérangé par grand-chose, on peut comprendre, je ne dirais pas comprendre, mais en tout cas, se dire, mais tiens, ils s'inquiètent, ils ne savent pas ce que vivent les autres. Et ils ne savent pas que de toutes les manières, un jour ou l'autre, si on ne vient pas tendre la main à ces gens-là, de toutes les manières, leur réalité, leur souffrance nous affecte, va nous affecter de manière ou d'une autre. Donc autant tendre la main et essayer de comprendre pour pouvoir affronter ensemble une réalité migratoire qui transforme les nouvelles sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un avènement social, sociétal, on va dire, aujourd'hui, dans le 21e siècle, les sociétés ne seront plus jamais les mêmes. Il n'y a plus de sociétés. D'abord, il n'y en a jamais eu. Les sociétés pures, ethniquement, culturellement épurées, ne sont plus de mise. Elles n'existent pas. Quand elles existent, elles sont vraiment malheureuses. Et au contraire, ce vers quoi on s'achemine, c'est à des mélanges de plus en plus forts et de moins en moins difficile à démêler de populations venues d'horizons culturels, sociaux, linguistiques, ethniques différents.
Alors le mélange, la curiosité, tout ça, on a bien saisi ce qu'il faudrait faire pour que les gens soient moins apeurés par le fait d'accueillir des autres. Mais il y aura toujours des gens, des xénophobes. Comment on fait pour faire évoluer une mentalité pour de vrai ?
Je pense que quelque part, le politique joue un rôle très important, les médias jouent un rôle très important, et moi, je suis convaincue au fond de moi que l'humain ordinaire, le quidam ordinaire, est beaucoup moins xénophobe quand on le sensibilise à l'autre. Et que l'ensemble de ces discours sont souvent portés par des politiques, et porté par les médias, relayé par les médias pour faire événement, et aussi porté, bien entendu, par des gens, par l'ignorance, par la méconnaissance. Je ne veux pas dire ignorance, je dis la méconnaissance de l'autre. Et qu'en l'occurrence, si on travaille sur la rencontre entre les uns et les autres, on fait ce qu'on a à faire. Et deuxièmement, on développe un autre discours qui va à l'encontre, voilà, du discours des médias, et on révèle des réalités qui autorisent d'autres choix politiques que ceux qui sont faits par les nôtres.
Pour faire le lien avec le Liban, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se réfugient au Liban à cause du conflit en Syrie, dans un pays où, moi j'ai eu l'occasion de le développer un peu avec les autres intervenants du Festival Est-Ouest, où il n'est déjà pas facile de vivre, en fait. Là, est-ce que c'est dû à une culture très différente de l'accueil, ou est-ce que c'est dû au fait que ce soit simplement les voisins proches, ou est-ce que tout ça se mélange ? Comment ça se passe, l'accueil des réfugiés au Liban ?
On en parlait hier à Bourg-les-Valences, à vrai dire. Le Liban est un pays meurtri par les guerres. Donc nous savons, depuis 1975, ce pays n'a pas cessé de connaître des situations de conflit. Il y a eu un intermède de paix qui était trop court entre 1991 et 2006. Et depuis, il est embarqué dans une sphère de... Quand ce n'est pas de la violence, c'est du mal-vivre. Cette guerre s'est soldée aussi, s'est traduite par une sorte de tri confessionnel, de tri ethnique, qui fait souffrir beaucoup de Libanais. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir les musulmans d'un côté de se replier, les chrétiens se replier, les chiites se replier, les sunnites se replier, les druzes se replier sur eux-mêmes. Et en même temps qu'il y a ce repli, il y a aussi un regret de ne plus vivre ensemble. Donc ça, c'est important de le dire pour, disons, à la décharge de ce conflit où il y a beaucoup d'épuration. On parle d'épuration au sens, pas au sens génocidaire, mais au sens qui est produit par les guerres civiles. L'arrivée des Syriens, en fait, il y a toujours eu des Syriens dans ces pays. Il faut dire que, historiquement, il y a une mémoire qui est antérieure aux mémoires nationales qui renaît, qui revient. Et c'est très surprenant de voir cette mémoire se réactiver. C'est, je dirais, c'est notre l'instinct de survie, je ne sais pas comment dire, ramène ces mémoires antérieures pour permettre un certain vivre ensemble. Maintenant, effectivement, les gens vivent mal, mais il n'y a pas beaucoup le choix. Il n'y a pas beaucoup le choix parce que les gens sont là. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a rien à faire d'autre à part les accueillir et trouver une manière de composer. Je ne dis pas que c'est pour... que ça va durer longtemps, que c'est un bien-être, enfin, je veux dire, ces modalités, cette espèce de statu quo de vivre ensemble non défini encore, puisqu'on le subit, tout le monde le subit, les Libanais le subissent, les Syriens le subissent, ils n'ont pas d'autre choix que de coexister en attendant que le conflit syrien soit résolu et en attendant que la situation au Liban soit elle-même réglée d'un point de vue institutionnel pour essayer de décider ce que les sociétés, ces deux sociétés veulent faire ensemble. Est-ce que ces réfugiés vont rester au Liban, auquel cas quel contrat social il va falloir définir au Liban? Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer, auquel cas, du coup, où vont-ils rentrer, etc. Donc c'est un statu quo qui est défini par le fait qu'il n'y a pas d'autre solution et que la crise syrienne, le conflit syrien n'est toujours pas réglé. Donc, en l'occurrence, les gens attendent avant d'intégrer ou attendre avant de se livrer à une autre guerre civile, ce qui serait encore plus malheureux.
Alors, pour essayer d'être un peu plus optimiste, c'est un des sujets que j'ai abordé aussi avec mes autres interlocuteurs. On parle beaucoup de contrastes et de paradoxes dans la façon dont on parle du Liban aujourd'hui, avec des traces de la guerre encore très présentes. Et puis, comme vous le dites, le fait qu'il y ait des guerres autour fait que tout ça est encore très vivant. Et puis, tout un pan aussi culturel, on va dire... très vivant, qui parle d'aujourd'hui, par exemple, de Beyrouth, qui est une ville très vivante. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des mouvements un petit peu qui émergent de la jeunesse, un petit peu révolutionnaire, et qui vont vers l'avant?
Je dirais, en tant que chercheur, là, du coup, j'interviendrai en disant qu'en fait, la guerre civile libanaise a donné lieu à une classe de dirigeants, je dirais, qui sont les seigneurs de la guerre et qui se partagent, en gros, le butin de la guerre civile qui a duré 30 ans et qui ne veulent pas lâcher leurs prérogatives. Et ça, on va le retrouver dans toutes les communautés ou dans toutes les tendances politiques, dans tous les courants politiques qui sont au Liban. En amont de ça, ou en aval, il y a une autre génération qui arrive, une génération qui ne veut pas... quitter le pays, parce que c'est la solution, qui veut rester dans ce pays et qui veut un pays qui lui ressemble, c'est-à-dire qui lui ouvre des perspectives. Et en ce sens-là, ils se battent. Maintenant, ils se battent, malheureusement, ils ne gagnent pas encore, mais ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à vivre, parce que la guerre produit, en même temps qu'elle produit des destructions, elle produit également des résiliences et des rebondissements et une autre manière de regarder la vie et de chercher la vie là où quelqu'un d'autre de l'extérieur n'y verrait que destruction. Et c'est quelque chose, je pense, c'est la leçon que les sociétés en guerre nous donnent. Cherchons la vie quand c'est possible et ramenons-la au meilleur. Voilà.
Rebondissons. Merci beaucoup, Anna Jaber, d'être venue dans le studio d'RDWAT parler de tout ça avec moi.
C'est moi qui vous remercie. Et je vous félicite pour ce beau pays que vous avez et pour cette société extrêmement conviviale et ce festival vraiment, vraiment délicieux.
Merci beaucoup. Restez bien à l'écoute des ondes de RDWA. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les autres interviews au sujet du Festival Est-Ouest ou non sur le www.rdwa.fr. Salut à tous.
Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.